Donc on va recontextualiser, le gouvernement cherche à faire 10 milliards d'euros d'économie, 20 milliards l'an prochain, la Cour des comptes en demande 50 supplémentaires, la croissance est en panne, le déficit public est plus important que prévu, 5-6, 5-7, 5-8, c'est ce qui va se passer sur les prochaines années. Est-ce que le gouvernement pourra faire l'impasse sur l'augmentation des impôts, très franchement, Alain Duhamel?
En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron ne peut pas vivre avec des déficits de cette ampleur. On ne le peut pas économiquement, parce que ça n'est pas tenable 5 ans. Donc on ne le peut pas économiquement et politiquement. On ne peut pas prétendre exister, influer et a fortiori prendre des initiatives si on est dans une situation financière caricaturale. Donc, de deux choses l'une, ou bien on augmente les impôts, ou bien on baisse les dépenses. Bon, on sait qu'Emmanuel Macron est farouchement hostile à l'augmentation des impôts. Ça lui avait d'ailleurs, ses baisses d'impôts, parce qu'il y avait eu des baisses, lui ont d'ailleurs bien réussi au début de son premier quinquennat, puis ensuite il y a eu la succession des crises. Aujourd'hui, il en reste toujours à sa théorie, c'est-à-dire baisser les dépenses. Mais baisser les dépenses, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Il y en a une mauvaise, celle qu'on a choisie cette année, enfin on, qui a été choisie cette année, qui est celle de la technique du rabot. Mmh. On baisse, on grignote un tout petit peu partout.
On rabote partout.
Moyennant quoi, on esquinte un petit peu partout, on déplaît à tout le monde, et surtout, on ne peut pas faire ça 3 ans de suite, parce que ça ne marche pas. Et puis l'autre, qui consiste à tailler dans des dépenses sociales. Et si on taille dans des dépenses sociales, on peut désindexer ceci, désindexer cela, jouer avec la TVA, avec la CSG. On a énormément d'instruments qui ont de toute façon une conclusion commune, c'est que c'est terriblement impopulaire et donc il y a un risque de crise politique fort.
Macron ne veut pas augmenter les impôts, et d'autant plus qu'il a promis une nouvelle baisse d'impôts pendant la campagne présidentielle, 2 milliards d'euros pour les classes moyennes l'année prochaine.
Oui, mais ça fait, là, on est dans une situation, c'est-à-dire que cette dérive des comptes publics, ça fait très très mauvais genre, surtout quand on veut, comme Emmanuel Macron, affronter le Rassemblement national sur le terrain de la crédibilité, du sérieux, au fond. Mmh. Et sur ce terrain-là, jusqu'à présent, si vous voulez, dans toutes les enquêtes d'opinion, c'était évidemment Emmanuel Macron qui avait l'avantage, et de très loin, sur Marine Le Pen, Jordan Bardella, etc. Parce qu'il était crédité par les Français de savoir, au fond, gérer un pays. Là, c'est sur ce terrain-là, c'est-à-dire sur cet item d'Emmanuel Macron, qui était son sérieux et sa crédibilité, que se joue cette affaire de dérapage des comptes publics. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pas, non seulement c'est grave sur le terrain de la rationalité économique, mais en plus, les incidences politiques sont très lourdes. Et Emmanuel Macron, hier, quand il y a eu deux réunions coup sur coup à l'Élysée à partir de la fin de l'après-midi, il a d'abord réuni les ministres et puis ensuite il a eu un dîner de travail avec les chefs des partis politiques de la majorité, le président du groupe à l'Assemblée et au Sénat. Et là, il leur a dit qu'il fallait être inventif, qu'il fallait explorer, je le cite, toutes les pistes possibles, faire des propositions très concrètes, sauf l'augmentation des impôts. Et les deux pistes qui ont été sur la table, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais à ce stade, c'est l'assurance chômage et les collectivités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait Christophe Béchu dans cette réunion, parce que précisément, il était là au titre des collectivités.
Mais Alain...
Pour raboter, au fond, l'argent des collectivités.
Qui est responsable de cette situation? Est-ce que c'est la faute des crises majeures que Emmanuel Macron a dû affronter? Alors, je cite les Gilets jaunes, le Covid, bien sûr, mais aussi l'Ukraine.
Les deux réformes des retraites. Alors, qui ont
fait même. Mais il y a des crises qu'il n'a pas voulu. Gilets jaunes, oui. Covid, Ukraine. Donc là, il fallait déverser des milliards d'euros. Ou est-ce qu'aussi parce que, finalement, on est géré par des gens dépensiers? Emmanuel Macron, Bruno Le Maire... ont trop dépensé.
Alors,
ce qui n'est pas nouveau en France.
Alors, il y a une tradition dépensière en France.
Droite et gauche
qui va. Oui, bien sûr. Ben, en plus, elle a. La dernière fois qu'on a eu un budget en équilibre, c'était Raymond Barre.
Voilà.
Bon, c'était il y a un certain temps, vous en conviendrez.
50 ans.
Oui. Bon. Donc, on a cette mauvaise tradition-là qui va de pair avec le poids excessive de l'État en France par rapport aux autres pays et par le fait que on a des dépenses sociales qui sont les plus élevées. On a à la fois les impôts les plus élevés et les dépenses les plus élevées.
La redistribution est
donc c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Bon, face
à évidemment, en 50 ans, on s'y habitue. Est-ce que c'est si grave que ça?
Bon, mais dans la période récente, c'est celle qui nous concerne. Dans la période récente, en fait, la France s'endette plus que les autres dans la mesure où elle a aidé plus que les autres pendant la période du Covid. Pendant la période du Covid, on a été réellement de loin les plus protecteurs, mais les plus protecteurs vis-à-vis de toute la France.
Parfois peut-être c'est-à-dire, trop même.
Mais sûrement, quand c'est vis-à-vis de toute la France.
Il y a eu des effets d'aubaine.
Mais bien sûr. Mais c'est à la fois vis-à-vis des entreprises, dont beaucoup n'ont pu survivre que comme ça, et vis-à-vis des revenus des Français. Et depuis, on n'a pas repris les choses en main. Et c'est là où, évidemment, il y a une erreur. Et c'est là où il doit y avoir maintenant une réaction. Et cette réaction, si ça n'est pas l'augmentation des impôts, ça va être la baisse des dépenses.
Mais Bruno Le Maire peut être le même homme, c'est-à-dire celui qui faisait des chèques à tout va, peut-être utile à celui qui doit maintenant dire stop.
Et non, mais il était.
Pour les Français, mais pour l'opinion publique, est-ce que c'est compréhensible?
Il était l'incarnation du quoi qu'il en coûte, Bruno Le Maire, évidemment, et en plus, il l'a incarné avec un certain entrain. Ça lui déplaisait pas, ce rôle d'être le ministre du quoi qu'il en coûte. Ensuite, il a été ministre des chèques. Et maintenant, Bruno Le Maire, vous avez vu, c'est pas tout à fait un hasard. Il y a un livre qui est sorti hier. Ça s'appelle La Voix française. Et au fond, ça ressemble à une forme de ligne de fuite. Je pense que c'est presque le sous-texte métaphorique de ce livre, dans la mesure où qu'est-ce que nous explique Bruno Le Maire? Eh bien, il nous explique qu'il faut de la rigueur. Il nous explique qu'il faut sortir de l'État-providence.
Fait aux commandes depuis 7 ans.
Mais c'est toute la difficulté, pour ne pas dire l'incohérence de sa position politique et tactique, c'est que donc sortie de l'État-providence, sortie du tout gratuit, qui sont en train d'épuiser le pays, nous dit-il. Et alors, évidemment, comme il a été celui qui, depuis 7 ans, met en œuvre ces politiques qu'aujourd'hui il considère épuisantes pour le pays, on se demande comment il va pouvoir le justifier, mais on sent aussi qu'il essaie de placer, si vous voulez, des petits cailloux pour préparer une éventuelle sortie du gouvernement. Le problème, c'est que cette sortie du gouvernement, si elle intervenait, elle interviendrait trop tard. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il est quand même au cœur du chaudron de ce dérapage des comptes publics, et il a beau essayer de s'en dédouaner en disant je prône la rigueur, il aurait dû le faire avant. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avec cette indiscrétion du canard enchaîné. Et après, Alain, on vous écoute, mais le canard enchaîné, je trouve qu'elle est très très mignonne, cette phrase qui est prêtée à Emmanuel Macron. Bruno Le Maire devrait en parler à celui qui est ministre de l'économie depuis 7 ans. C'est ainsi que c'est par ce sarcasme qu'Emmanuel Macron accueille le livre de Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire n'a fait qu'appliquer aussi à la politique d'Emmanuel Macron. Croire qu'il avait une indépendance.
Bien entendu qu'il appliquait la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi il l'incarnait. Et il l'incarnait avec plaisir.
Et ça lui plaisait beaucoup.
Et il l'incarnait avec talent, mais avec de l'autorité. Mais en même temps.
D'ailleurs, c'est un des ministres les plus populaires.
Mais en même temps, c'est l'image qu'il a laissée aux Français. Il a été l'homme qui a aidé les Français pendant la période du Covid.
Il peut être l'homme de l'austérité, des mauvaises nouvelles.
Écoutez, franchement, c'est difficile d'être à la fois Raymond Barre et Pierre Mauroy. Voilà, Pierre Mauroy, qui est un homme extrêmement honorable, que j'aimais beaucoup, mais qui a été le plus dépensier, évidemment.
Il y avait toutes les promesses de François Mitterrand à assumer. Oui.
Donc on ne peut pas être les deux. On peut être l'un, mais on peut être l'autre.
Bah, c'est pas lui en même temps.
Et on ne peut pas être les deux, même successivement. C'est ça qui est frappant. Et je ne vois pas très bien comment il peut s'en tirer à son avantage. Ce n'est pas qu'il ne soit pas du tout honorable, ce n'est pas qu'il ne soit pas du niveau, il est tout à fait du niveau.
Il aurait peut-être dû quitter le gouvernement, alors.
Mais oui, mais il fallait le quitter, alors.
Il fallait le quitter avant.
Oui, avant la nomination de Gabriel Attal.
Oui, bien sûr. Ou à cette occasion. Et à ce moment-là, en disant, je ne me sens pas d'appliquer une politique différente de celle que j'ai appliquée. Et là, il aurait laissé les Français sur l'idée que c'est lui qui avait été généreux avec eux pendant toute la période du Covid.
Ouais. La situation
au lieu de quoi, il, en fait, il joue il joue un contre-pied, ouais. Parce qu'en fait, il joue le mauvais rôle. Il est aujourd'hui le porteur des mauvaises nouvelles. Alors, vous avez vu qu'il a essayé de prendre les devants médiatiquement. Il est venu aux 20h de TF1 il y a déjà un mois. Puis ensuite, il y a eu cette grande interview dans Le Monde où il a dit que l'État ne pouvait pas être une pompe à fric. Ça, c'était il y a 15 jours. Donc, on sent qu'il cherche une posture, mais qu'en effet, la seule façon de s'en sortir était de partir avant en disant « je ne peux pas cautionner, je ne souscris pas ». Là, maintenant, il se retrouve à côté d'Emmanuel Macron à devoir porter le chapeau. Et ce livre ne suffira pas à l'exonérer.
C'est plus compliqué quand on n'a pas la majorité en plus à l'Assemblée nationale.
Ça ne fait absolument aucun doute. Vous avez remarqué qu'il y a un deuxième pays européen qui expérimente maintenant à son tour la majorité relative, qui est le Portugal. Merci. Je leur souhaite bonne chance.
Merci Alain Duhamel, merci Anna Cabana.